From the conference center at Temple
Square. Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 181e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Des membres et des officiers de l'Église sont venus du monde entier pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques.
This broadcast is furnished as a public.
Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, au début de cette première session de la 181e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous vous souhaitons la bienvenue et tout particulièrement aux membres et amis de l'Église qui suivent cette conférence ici, au centre de conférence et partout dans le monde. Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons la présence des autorités générales et des présidences générales des auxiliaires qui assistent à cette conférence. Nous remercions les nombreuses chaînes de télévision, stations de radio et réseaux de diffusion par satellite et par câble qui offrent leur concours à titre de service public afin de transmettre cette conférence à un vaste auditoire dans de nombreuses régions du monde. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mike Wilberg et Ryan Murphy, avec Richard Elliott et Andrew Unworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Le jour paraît chassant la nuit » et il va maintenant chanter « With Songs of Praise ». Ensuite, Gary G. Coleman, dès 70, fera la prière d'ouverture.
Praise and gratitude, we worship God above.
Our Father, which art in heaven,
Père céleste, que ton nom soit sanctifié, et le nom de ton Fils, qui a opéré la grande expiation dans ton plan pour nous. Nous te remercions du rétablissement de l'Évangile, des prophètes vivants qui sont sur la terre aujourd'hui, pour les temples qui sont partout dans les pays, et te prions que lors de cette conférence générale, ton esprit soit sur ton prophète, le président Monson, et ses conseillers, ainsi que sur les 12, et tous les hommes et les femmes dévoués qui nous instruiront, qui prieront pour nous, qui chanteront pour nous, et loueront ton nom et le nom de ton Fils. Nous te prions que tes paroles aient un effet plus fort sur l'esprit des mondes que quoi que ce soit d'autre, et que ta volonté se fasse, que ton Fils revienne et nous sauve en ces temps troublés dans ce monde plein d'épreuves. C'est notre prière au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.
We will now be pleased to hear.
Nous allons maintenant avoir le plaisir d'entendre Frère Scott du Collège des Douze. Après son discours, le chœur chantera We ever pray for thee.
Those of us who come to this pulpit during conference.
Ceux d'entre nous qui viennent à ce pupitre durant la conférence ressentent le pouvoir de vos prières. Notre Père Céleste comprenait que pour faire les progrès souhaités au jour de notre épreuve, nous aurions besoin d'affronter de grandes difficultés. Certaines d'entre elles seraient presque insurmontables. Il a fourni des outils pour nous aider à réussir notre épreuve dans la condition mortelle. Un de ces outils, ce sont les Écritures. À travers les âges, notre Père Céleste a inspiré des hommes et des femmes choisis à trouver, grâce à la direction du Saint-Esprit, des solutions aux problèmes les plus épineux de la vie. Il a inspiré ses serviteurs autorisés à enregistrer ces solutions dans une sorte de manuel pour ceux de ses enfants qui ont la foi en son plan du bonheur et en son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous avons à tout moment libre accès à ce guide grâce au trésor que nous appelons les ouvrages canoniques, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, le Livre de Mormon, les Doctrines et Alliances et la Perle de Grand Prix. Les Écritures sont le produit d'une communication inspirée par le Saint-Esprit. Elles sont la pure vérité. Nous ne devons pas nous interroger sur la validité des concepts contenus dans les ouvrages canoniques, puisque le Saint-Esprit a été l'instrument qui a motivé et inspiré les personnes qui les ont écrits. Les Écritures sont comme des petites quantités de lumière qui illuminent notre esprit et nous préparent à être dirigés et inspirés d'en haut. Elles peuvent devenir la clé pour ouvrir le canal de communication avec notre Père Céleste et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Lorsqu'elles sont citées correctement, les Écritures donnent à nos déclarations la force de l'autorité. Elles peuvent devenir des amis loyaux que l'on peut consulter n'importe où et n'importe quand. Elles sont toujours disponibles en cas de besoin. Leur utilisation assure une base de vérité qui peut être activée par le Saint-Esprit. Apprendre, méditer, chercher et mémoriser les Écritures, c'est comme remplir un meuble de rangement avec des amis de valeur et des vérités auxquelles on peut faire appel à n'importe quel moment et n'importe où dans le monde. La mémorisation des Écritures peut être la source d'un grand pouvoir. Mémoriser une Écriture, c'est ce créer une nouvelle amitié. C'est comme découvrir une nouvelle personne qui peut nous aider en cas de besoin, nous donner de l'inspiration et du réconfort et être une source de motivation quand un changement est nécessaire. Par exemple, le fait d'apprendre par cœur ce psaume a été pour moi une source de pouvoir et de compréhension. À l'Éternel, la terre, et c'est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. La méditation sur une écriture telle que celle-ci donne un grand sens à la vie. Les écritures peuvent constituer la base d'un soutien. Elles peuvent être une source incroyablement abondante d'amis dévoués qui peuvent nous aider. Une écriture mémorisée devient une amie dont la loyauté ne faiblit pas avec le temps. La méditation sur un passage d'écriture peut être une clé d'accès à la révélation, à la direction et à l'inspiration du Saint-Esprit. Les écritures peuvent calmer une âme agitée, apporter paix et espoir et redonner confiance en la capacité de surmonter les difficultés de la vie. Elles ont le grand pouvoir d'apporter la guérison de blessures émotionnelles si l'on a foi au Sauveur. Elles peuvent accélérer la guérison physique. Les écritures peuvent revêtir des sens différents à différentes périodes de notre vie selon nos besoins. D'un passage d'écriture déjà lu de nombreuses fois peut se dégager des nuances nouvelles qui sont rafraîchissantes et pénétrantes quand nous affrontons une nouvelle épreuve. Comment vous servez-vous des écritures? Est-ce que vous marquez les vôtres? Est-ce que vous les annotez dans la marge pour vous souvenir d'un moment où vous avez été guidé spirituellement ou d'une expérience qui vous a enseigné quelque chose de profond? Est-ce que vous servez de tous les ouvrages canoniques, y compris de l'Ancien Testament? J'ai trouvé dans les pages de l'Ancien Testament des vérités précieuses qui sont des éléments essentiels du fondement de vérité qui guide ma vie et qui me sert de ressource quand j'essaye de donner un message d'évangile à d'autres personnes. C'est pourquoi j'aime l'Ancien Testament. Je trouve des joyaux de vérité tout au long de ces pages. Par exemple, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Le Nouveau Testament est aussi une source de vérité précieuse. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Voici un passage des Doctrines et Alliances qui m'a grandement béni. Ne cherche pas à annoncer ma parole, mais cherche tout d'abord à obtenir ma parole. Et alors ta langue sera déliée. Puis, si tu le désires, tu auras mon esprit et ma parole, oui, la puissance de Dieu pour convaincre les hommes. Je trouve que le livre de Mormon enseigne la vérité avec une clarté et un pouvoir unique, par exemple. Et maintenant, je voudrais que vous soyez humble et que vous soyez soumis et doux, facile à supplier, plein de patience et de longanimité, modéré en tout, diligent à garder en tout temps les commandements de Dieu, demandant tout ce dont vous avez besoin, tant spirituellement que temporellement, rendant toujours grâce à Dieu de tout ce que vous recevez. Et veillez à avoir la foi, l'espérance et la charité, et alors vous abonderez toujours en bonnes œuvres. Et un autre, et la charité est patiente, et est pleine de bonté, et n'est pas envieuse, et ne s'enfle pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, et ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, si vous n'avez pas la charité, vous n'êtes rien. Car la charité ne périt jamais. C'est pourquoi, attachez-vous à la charité, qui est ce qu'il y a de plus grand. Car tout succombera. Mais la charité est l'amour pur du Christ. Et elle subsiste à jamais. Et tout ira bien pour quiconque sera trouvé la possédant au dernier jour. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être rempli de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ, afin de devenir les fils de Dieu, afin que, lorsqu'il apparaîtra, nous soyons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est, afin que nous ayons cette espérance, afin que nous soyons purifiés comme il est pur. Ma chère femme, Janine, aimait le Livre de Mormon. Dans sa jeunesse, quand elle était adolescente, il est devenu la fondation de sa vie. Il a été une source de témoignages et d'enseignements pendant sa vie de missionnaire à plein temps dans le nord-ouest des États-Unis. Quand nous étions dans le champ de la mission de Cordoba en Argentine, elle recommandait vivement l'utilisation du Livre de Mormon dans nos efforts de prosélytisme. Elle a confirmé tôt dans la vie que les personnes qui lisaient avec régularité le Livre de Mormon ont la bénédiction d'avoir une portion supplémentaire de l'Esprit du Seigneur, une plus grande détermination à obéir aux commandements et un plus fort témoignage de la divinité du Fils de Dieu. Pendant je ne sais combien d'années, quand la fin de l'année approchait, je la voyais assise en silence, en train de finir soigneusement le Livre de Mormon, lu une fois de plus en entier avant la fin de l'année. En 1991, j'ai voulu faire un cadeau de Noël spécial à ma famille. J'ai écrit dans mon journal comment j'ai réalisé ce désir. Il est 12h38, c'est aujourd'hui, mercredi 18 décembre 1991. Je viens de terminer un enregistrement audio du Livre de Mormon pour ma famille. Cette expérience qui a fortifié mon témoignage de cette œuvre divine et qui a renforcé mon désir de mieux connaître son contenu afin d'en apprendre des vérités que je pourrais utiliser dans mon service pour le Seigneur. J'aime ce livre. Je témoigne de toute mon âme qu'il est vrai, qu'il a été préparé afin d'être une bénédiction pour toute la maison d'Israël et toutes ses composantes réparties dans le monde entier. Toutes les personnes qui étudieront son message avec humilité, en croyant avec foi en Jésus-Christ, en connaîtront la véracité et elles trouveront un trésor qui les conduira vers un bonheur, une paix et un épanouissement plus grand dans cette vie. Je témoigne par tout ce qui est sacré que ce livre est vrai. Puissions-nous tous profiter des immenses bénédictions qui découlent de l'étude des Écritures. Au nom de Jésus-Christ, amen.
You'll now be pleased to hear from Sister Barbara.
Nous allons maintenant entendre Sœur Thompson, deuxième conseillère dans la présidence de la Société de secours. Ensuite, nous écouterons Frère Clayton de la présidence des 70.
Il y a bien des années de cela, lorsque j'étais étudiante, j'écoutais la conférence générale à la radio, car nous n'avions pas de télévision dans notre petit appartement. Les orateurs de la conférence étaient merveilleux et je sentais le Saint-Esprit se déverser. Je me souviens bien d'une autorité générale qui a parlé du Sauveur et de son ministère, puis a rendu un fervent témoignage. Le Saint-Esprit a confirmé à mon âme qu'il avait dit la vérité. À cet instant, j'ai su avec certitude que le Sauveur vit. J'ai aussi su avec certitude que j'étais en train de recevoir une révélation personnelle qui me confirmait que Jésus est le Fils de Dieu. À l'âge de 8 ans, j'ai été baptisée et confirmée et j'ai reçu le don du Saint-Esprit. C'était une merveilleuse bénédiction à l'époque, mais elle est devenue de plus en plus importante, car au fil des années, j'ai ressenti le Saint-Esprit de nombreuses manières. Souvent, lorsque nous passons de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, nous rencontrons des difficultés et nous avons des expériences qui nous amènent à savoir que nous avons besoin de l'aide divine qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Lorsque les difficultés surviennent, nous pouvons nous demander « Quelle est la solution à mon problème ?» et « Comment savoir ce que je dois faire ?» Je me souviens souvent du passage du Livre de Mormon où Léhi enseigne l'Évangile à sa famille. Il lui fait part de nombreuses révélations et enseignements à propos des choses à venir dans les derniers jours. Néphi a demandé au Seigneur de le guider pour lui permettre de comprendre plus complètement les enseignements de son Père. Il a été édifié, béni et inspiré de savoir que les enseignements de son Père étaient vrais. Cela lui a permis de suivre soigneusement les commandements du Seigneur et de mener une vie juste. Il a reçu une révélation personnelle pour le guider. Ses frères, eux, se disputaient parce qu'ils ne comprenaient pas les enseignements de leur père. Néphi leur a alors posé une question très importante. « Avez-vous interrogé le Seigneur ?» Ils ont répondu faiblement « Non, car le Seigneur ne nous révèle rien de la sorte. » Néphi a saisi cette occasion pour enseigner à ses frères comment recevoir une révélation personnelle. Il a dit, « Ne vous souvenez-vous pas des choses que le Seigneur a dites ? Si vous ne vous endurcissez pas le cœur et me demandez avec foi, croyant que vous recevrez, étant diligent à garder mes commandements, assurément ces choses vous seront révélées. » La manière de recevoir une révélation personnelle est très claire. Nous devons avoir le désir de la recevoir. Nous ne devons pas nous endurcir le cœur. Nous devons croire réellement que nous recevrons une réponse, puis respecter diligemment les commandements de Dieu. Le fait de procéder de la sorte ne signifie pas que chaque fois que nous posons une question à Dieu, la réponse apparaîtra immédiatement avec chaque détail de ce que nous devons faire. Cependant, cela signifie que si nous respectons diligemment les commandements et demandons avec foi, les réponses viendront à la façon du Seigneur et en son temps. Quand j'étais enfant, je pensais que la révélation personnelle ou les réponses aux prières se manifestaient d'une voix audible. En effet, nous recevons certaines révélations en entendant une voix. Cependant, j'ai appris que l'Esprit parle de nombreuses manières. Les doctrines et alliances à la section 6 expliquent plusieurs manières par lesquelles nous pouvons recevoir la révélation. Tu m'as interrogé et voici, toutes les fois que tu m'as interrogé, tu as reçu des instructions de mon esprit. J'ai éclairé ton esprit. N'ai-je pas apaisé ton esprit à ce sujet? Dans d'autres Écritures, nous en apprenons plus sur la manière de recevoir la révélation. Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur par le Saint-Esprit qui viendra sur toi et qui demeurera dans ton cœur. C'est là l'esprit de révélation. Si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi. C'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. Je te donnerai de mon esprit, ce qui éclairera ton intelligence, ce qui remplira ton âme de joie. Le plus souvent, nous recevons la révélation personnelle lorsque nous étudions les Écritures, lorsque nous écoutons et suivons les conseils des prophètes et d'autres dirigeants de l'Église et cherchons à mener une vie fidèle et juste. Parfois, nous recevons de l'inspiration d'un seul verset d'Écriture ou d'une ligne d'un discours de conférence. Peut-être votre réponse viendra-t-elle au moment où les enfants de la primaire chantent un beau chant. Ce sont toutes des formes de révélation. Dans les premiers temps du rétablissement, de nombreux membres ont recherché diligemment la révélation, y ont eu la bénédiction et l'inspiration de savoir ce qu'ils devaient faire. Elisa Snow avait reçu de Brigham Young, le prophète, la responsabilité d'aider à l'édification et à l'enseignement des sœurs de l'Église. Elle enseignait que les femmes pouvaient recevoir individuellement de l'inspiration pour être guidées dans leur vie personnelle, leur famille et leur responsabilité dans l'Église. Elle a dit « Dites aux sœurs d'aller de l'avant et de s'acquitter de leurs devoirs avec humilité et fidélité, et l'Esprit de Dieu demeurera sur elles et elles seront bénies dans leurs travaux. Qu'elles recherchent la sagesse et non le pouvoir, et elles auront tout le pouvoir qu'elles auront la sagesse d'exercer. » Sœur Snow a enseigné aux sœurs de rechercher la direction du Saint-Esprit. Elle disait que le Saint-Esprit satisfait et exauce tous les désirs du cœur humain et comble tout vide. Quand je suis remplie de cet esprit, mon âme est satisfaite. Le président Ohrdorf a dit que la révélation et le témoignage ne sont pas toujours donnés avec une force écrasante. Chez beaucoup de personnes, le témoignage s'acquiert lentement, une bribe à la fois. Il a ajouté « Recherchons avec ferveur la lumière de l'inspiration personnelle. Implorons le Seigneur de doter notre esprit et notre âme de l'étincelle de foi qui nous permettra de recevoir et de reconnaître l'aide divine de l'Esprit-Saint. » Nos témoignages nous fortifient lorsque nous rencontrons des difficultés dans notre vie quotidienne. Certaines personnes sont aux prises avec des problèmes de santé, d'autres rencontrent des problèmes financiers, d'autres ont des difficultés dans leur mariage ou avec leurs enfants. Certaines personnes souffrent de solitude ou d'espoir ou de rêves non réalisés. C'est notre témoignage associé à notre foi au Seigneur Jésus-Christ et à notre connaissance du plan du salut qui nous aide à traverser ces temps d'épreuves et de difficultés. Dans le livre « Filles dans mon royaume », nous lisons l'histoire de Hedwige Bireichel, une Allemande qui a connu beaucoup de chagrin et de privations durant la Deuxième Guerre mondiale. Par amour et de par sa nature charitable, et alors qu'elle était elle-même dans une grande nécessité, elle a partagé sa nourriture de bon cœur avec un prisonnier de guerre qui mourait de faim. Plus tard, lorsqu'on lui a demandé comment elle avait pu garder son témoignage pendant toutes ces épreuves, elle a répondu « Ce n'est pas moi qui ai gardé mon témoignage pendant cette période, c'est mon témoignage qui m'a gardé. » Ce n'est pas parce que nous avons un fort témoignage qu'il en sera toujours ainsi. Nous devons le nourrir et le fortifier afin qu'il ait suffisamment de pouvoir pour nous soutenir. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous réunissons souvent, afin de prendre la Sainte Cène, de renouveler nos alliances et d'être nourris de la bonne parole de Dieu. C'est la bonne parole de Dieu qui nous garde continuellement attentifs à la prière, nous reposant uniquement sur les mérites du Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. David Bednar nous a dit « Recherchez et appliquez convenablement l'esprit de révélation, et je vous promets que vous marcherez la lumière du Seigneur. » Tantôt, l'esprit de révélation agira immédiatement et intensément, tantôt subtilement et progressivement, et souvent si délicatement que vous n'en serez même pas conscient. Mais quelle que soit la forme sous laquelle vous recevez cette bénédiction, la lumière qu'elle apporte illuminera et épanouira votre âme, éclairera votre intelligence et vous dirigera et vous protégera, vous et votre famille. Le Seigneur désire nous apporter des bénédictions en nous guidant, en nous accordant de la sagesse et en orientant notre vie. Il désire déverser son esprit sur nous. Encore une fois, en ce qui concerne la révélation personnelle, nous devons avoir le désir de la recevoir. Nous ne devons pas nous endurcir le cœur. Nous devons croire réellement que nous recevrons une réponse, puis respecter diligemment les commandements de Dieu. Puis si nous recherchons des réponses à nos questions, il nous bénira en nous accordant son esprit. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Jeune
missionnaire, j'ai passé plusieurs mois dans les quartiers du centre de Lima, au Pérou. C'est ainsi que j'ai traversé de nombreuses fois la Plaza de Armas de Lima. Le palais du gouvernement, résidence officielle du président du Pérou, donne sur cette place. Mes collègues et moi y avons invité des personnes à entendre le message de l'Évangile rétabli. À cette époque, je me suis souvent demandé ce que cela ferait de pénétrer dans le palais, mais concrétiser un jour cette pensée semblait très improbable. L'an passé, D. Todd Christofferson du Collège des Douze, quelques autres personnes et moi avons rencontré Alan Garcia, alors président du Pérou, au palais du gouvernement. On nous a fait visiter ces belles salles et le président Garcia nous a reçus très cordialement. Mes rêves de jeune missionnaire concernant ce palais se sont réalisés d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible en 1970. Depuis ma mission, les choses ont changé au Pérou, particulièrement pour l'Église. Il y avait alors 11 000 membres de l'Église et seulement un pieu. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 membres et près de 100 pieux. Dans des villes où il n'y avait que des groupes minuscules de membres, des pieux animés et de magnifiques églises embellissent le pays. La même chose s'est produite dans beaucoup d'autres pays partout dans le monde. Cette croissance remarquable de l'Église mérite une explication. Je vais commencer par une prophétie de l'Ancien Testament. Daniel était un esclave hébreu à Babylone. On lui donna l'occasion d'interpréter un songe du roi Nebuchadnezzar. Il demanda à Dieu de lui révéler le songe et son interprétation, et sa prière fut exaucée. Il dit à Nebuchadnezzar, « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici les visions que tu as eues sur ta couche. » Il dit que le roi avait vu une statue effrayante ayant une tête, un torse, des bras, des jambes et des pieds. Une pierre se détacha d'une montagne sans le secours d'aucune main et descendit en grossissant graduellement. Elle frappa la statue, la mit en pièces, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel expliqua que la statue représentait des royaumes politiques futurs et que dans le temps de ces rois futurs, le Dieu des cieux susciterait un royaume qui ne serait jamais détruit. Il briserait et anéantirait tous ces royaumes-là et lui-même subsisterait éternellement. Passons maintenant à une époque plus récente. L'ange Moroni est apparu pour la première fois à Joseph Smith en 1823. Lui dit que Dieu avait une œuvre à lui faire accomplir et que son nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, familles et langues. Certainement que le message de Moroni a dû étonner Joseph, qui n'avait que 17 ans. En 1831, le Seigneur dit à Joseph que les clés du royaume de Dieu avaient de nouveau été remises à l'homme sur la terre. Il dit que l'Évangile roulerait jusqu'aux extrémités de la terre, comme la pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, jusqu'à remplir toute la terre, comme Daniel l'avait dit à Nebuchadnezzar. En 1898, le président Woodruff a raconté quelque chose qui lui était arrivé en 1834, alors qu'il était nouveau membre, à une réunion de la prêtrise près de Kirtland. Il dit, je cite, « Le prophète a demandé à tous les détenteurs de la prêtrise de se rassembler dans la petite école en rondin qui se trouvait là. C'était un petit bâtiment d'environ 18 mètres carrés. lorsque nous fûmes rassemblés, le prophète invita les anciens d'Israël à rendre témoignage de cette œuvre. Quand ils eurent fini, le prophète dit, « Mes frères, j'ai été très édifié et j'ai beaucoup appris de vos témoignages ce soir. Cependant, je tiens à vous dire devant le Seigneur que vous n'en savez pas plus sur la destinée de l'Église et du royaume qu'un nourrisson dans le giron de sa mère. Vous ne la comprenez pas. Ce soir, vous ne voyez qu'une petite poignée de détenteurs de la prêtrise, mais cette Église remplira l'Amérique du Nord et du Sud. Elle remplira la terre. Ces prophéties selon lesquelles le royaume de Dieu, comme une pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, remplirait la terre, le nom de Joseph Smith serait connu partout dans le monde, et l'Église remplirait les Amériques et le monde, ont pu sembler risibles il y a des années. Le petit groupe de croyants vivotant sur la frontière américaine et fuyant pour échapper aux persécutions n'avait pas du tout l'air d'être le fondement d'une religion qui allait traverser les frontières et pénétrer les cœurs partout. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Je vais vous donner un exemple. Le jour de Noël 1925, à Buenos Aires, Melvin J. Ballard consacra tout le continent sud-américain à la prédication de l'Évangile. Dès août 1926, une poignée de convertis avaient été baptisés. Ils étaient les premiers membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à être baptisés dans toute l'Amérique du Sud. C'était il y a 85 ans. Aujourd'hui, il y a 23 pieux de Sion à Buenos Aires et des dizaines de pieux et des dizaines de milliers de membres de l'Église dans de grandes et petites villes partout en Argentine. À présent, il y a plus de 600 pieux et des millions de membres de l'Église en Amérique du Sud. Le royaume de Dieu remplit le continent à vue d'œil et le nom de Joseph Smith est publié par nous et par ses détracteurs dans des pays dont il n'a sans doute jamais même entendu parler de son vivant. Aujourd'hui, dans le monde, l'Église compte près de 3000 pieux de Boston à Bangkok, de Mexico à Moscou. Nous allons bientôt atteindre 29 000 paroisses et branches. Dans beaucoup de pays, l'Église a des pieux matures, comptant des membres dont les ancêtres étaient des convertis. Dans d'autres, de petits groupes de nouveaux membres se réunissent en minuscules branches de l'Église, dans des maisons louées. Chaque année, l'Église s'étend plus loin dans le monde. Ridicule, ces prophéties que l'Église remplirait la terre et serait connue dans le monde entier? Peut-être. Improbable? Sans aucun doute. Impossible? Absolument pas. Elle se réalise sous nos yeux. Gordon B. Hinckley a fait la remarque suivante, je cite, « On a dit qu'à une époque, le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Cet empire s'est maintenant rétréci. Mais il est vrai que le soleil ne se coupe jamais sur cette œuvre du Seigneur qui touche la vie de gens sur toute la terre. Et ce n'est que le commencement. Nous avons à peine effleuré la surface. Notre œuvre ne connaît pas de limite. Les pays qui nous sont maintenant fermés seront un jour ouverts. » Fin de citation. Aujourd'hui, nous voyons que l'accomplissement d'une prophétie du Livre de Mormon approche. Et il arrivera que des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Car, en ce jour-là, le Père accomplira à cause de moi une œuvre qui sera grande et merveilleuse parmi eux. Cette œuvre du Seigneur est vraiment grande et merveilleuse. Elle est majestueuse, mais elle va de l'avant à l'insu de beaucoup des dirigeants des mondes politiques, culturels et universitaires. Elle progresse un cœur et une famille à la fois, silencieusement et discrètement, son message bénissant les gens de partout. Un verset du Livre de Mormon donne une clé de la croissance miraculeuse de l'Église à notre époque. Et de plus, je te dis que le temps viendra où la connaissance d'un Sauveur se répandra parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples. Notre message le plus important, que nous sommes divinement chargés et qui nous est commandé de donner partout dans le monde, est qu'il y a un Sauveur. Il a vécu au midi des temps, il a expié pour nos péchés, il a été crucifié et il est ressuscité. Ce message, sans pareil, que nous proclamons avec l'autorité de Dieu, est la véritable raison de la croissance de cette Église. Je témoigne qu'il est apparu avec son père à Joseph Smith. Sous la direction de son père, il a rétabli son Évangile sur la terre. Il a envoyé à nouveau des apôtres, des prophètes et les clés de la prêtrise sur la terre. Il dirige son Église par l'intermédiaire d'un prophète vivant, le président Monson. Son Église est cette pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main qui remplit toute la terre. Nous sommes reconnaissants à Joseph Smith et nous voyons avec émerveillement son nom honoré, et oui, même insulté encore davantage sur toute la terre. Mais nous sommes pleinement conscients que cette grande œuvre des derniers jours n'est pas la sienne. C'est l'œuvre de Dieu, le Tout-Puissant, et de son Fils, le Prince de la Paix. Je témoigne que Jésus-Christ est le Sauveur, et, comme vous, je suis frappé d'étonnement et d'admiration en voyant cette œuvre avancer miraculeusement, merveilleusement et irrésistiblement. En vérité, le temps est venu où la connaissance d'un Sauveur se répand parmi toutes les nations, tribus, langues et peuples. Je rends témoignage de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité, et de cette œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir and congregation.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter de tout leur cœur « Sauveur d'Israël ».
This is the 181st semi-annual.
Vous assistez à la 181e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
We will now be blessed to hear from our.
Nous allons maintenant avoir l'honneur d'écouter notre prophète bien-aimé, Thomas Monson, qui sera suivi par frère José L. Alonso, des 70, puis président Packer, président du Collège des 12 apôtres, vous adressera la parole. Le chœur chantera ensuite « Je suis enfant de Dieu ». Président Monson.
Hello.
Bonjour.
I wonder who I should call.
Je me demandais qui allait devoir parler à ma place. Mes frères et sœurs, quel plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la 181e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette conférence marque la 48e année depuis que j'ai été appelé, 48 ans, depuis que j'ai été appelé au Collège des 12 apôtres par David O'Mackay. C'est en octobre 1963. Il semble impossible que tant d'années se soient écoulées depuis. Quand nous sommes occupés, le temps semble passer beaucoup trop vite. Et les 6 derniers mois n'ont pas été l'exception pour moi. Un des moments marquants de cette période a été l'occasion qui m'a été donnée de reconsacrer le temple d'Atlanta en Géorgie le 1er mai. J'étais accompagné de M. Russell Ballard, de Walter F. Gonzalez et de William Walker, accompagné de leur femme, pendant la manifestation culturelle intitulée Southern Lights, qui a eu lieu le soir précédant la reconsécration. Nous avons regardé 2700 jeunes gens et jeunes filles du secteur du temple se produire en public. C'était un des spectacles les plus remarquables que j'ai vus. Elle était ovationnée plusieurs fois. Le lendemain, le temple a été reconsacré en 2 sessions, dans lesquelles l'Esprit du Seigneur était présent en abondance. Pendant la dernière quinzaine d'août, Henry Behring a reconsacré le temple de San Salvador au Salvador. Il était accompagné de sa femme, ainsi que de D. Todd Christopherson et de William Walker, tous deux accompagnés de leur femme, et de Sylvia Allred, de la présidente générale de ce secours, et de son mari Jeffrey. Le président Harring rapportait que c'était un événement des plus spirituels. À la fin de cette année, le président Urdorf et sa femme se rendront avec d'autres autorités générales à Quetzaltenango. N'essayez pas de l'épeler, au Guatemala, où il consacrera notre temple. La construction de temples continue de manière ininterrompue, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'annoncer plusieurs nouveaux temples. Tout d'abord, j'aimerais mentionner qu'aucun bâtiment construit par l'Église n'est plus important qu'un temple. Les temples sont des lieux où les relations sont scellées pour durer à travers les éternités. Nous sommes reconnaissants pour tous les nombreux temples dans le monde et pour les bénédictions qu'ils représentent dans la vie des membres. À la fin de l'année dernière, le tabernacle de Provo, dans le comté d'Utah, a été gravement endommagé par un terrible incendie. De ce magnifique bâtiment, très aimé par des générations de saints des derniers jours, seuls les murs extérieurs sont restés debout. Après étude attentive, nous avons décidé de reconstruire en préservant intégralement un restaurant à l'extérieur pour qu'il devienne le deuxième temple de l'Église dans la ville de Provo. L'actuel temple de Provo est l'un des plus fréquentés de l'Église. Et un second temple de la ville facilitera l'accueil des membres de l'Église fidèle de Provo et des villes voisines qui vont de plus en plus nombreux au temple. Je suis aussi heureux d'annoncer de nouveaux temples dans les endroits suivants. Barranquilla, Colombie, Durban, Afrique du Sud, Kinshasa, République démocratique du Congo, et Star Valley au Wyoming. Je crois que je vais consacrer celui-ci. La pêche y est bonne. De plus, nous progressons dans notre projet de construction d'un temple à Paris, en France. Les détails concernant ces temples seront fournis ultérieurement. Ultérieurement, quand le terrain et les autres autorisations nécessaires seront obtenues. Dans des conférences précédentes, j'ai parlé du progrès que nous faisons pour approcher les temples des membres. Bien qu'ils soient davantage accessibles aux membres de l'Église, il y a encore des régions du monde où les temples sont si éloignés que les membres ne peuvent pas payer le voyage pour s'y rendre. Ils sont ainsi dans l'impossibilité d'avoir part aux bénédictions sacrées et éternelles que fournissent les temples. Pour apporter notre aide à cet égard, nous avons à notre disposition ce qu'on appelle un fonds d'aide aux usagers du temple. Ce fonds permet aux personnes qui ne pourraient se rendre au temple autrement, mais qui en attendent désespérément l'occasion, d'y aller pour une visite unique. Quiconque souhaiterait contribuer à ce fonds peut simplement le mentionner sur le bulletin de dons qui est remis à l'évêque chaque mois. Maintenant, mes frères et sœurs, j'ai prié pour que nous soyons remplis de l'Esprit du Seigneur. En entendant les messages d'aujourd'hui et de demain, et que nous apprenions ce que le Seigneur voudrait que nous sachions. C'est là ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
In our day, many people are living in the midst.
À notre époque, de nombreuses personnes vivent dans la tristesse et dans une grande confusion. Elles ne trouvent pas de réponse à leurs questions et ne parviennent pas à subvenir à leurs besoins. Certaines ont perdu le sens du bonheur et de la joie. Les prophètes ont déclaré qu'on obtient le vrai bonheur en suivant l'exemple et les enseignements du Christ. Il est notre Sauveur, notre instructeur et l'exemple parfait. Sa vie a été une vie de service. Quand nous servons notre prochain, nous aidons les personnes qui sont dans le besoin. Ce faisant, nous pouvons trouver des solutions à nos propres difficultés. En suivant l'exemple du Sauveur, nous montrons notre amour pour notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Et nous devenons davantage semblables à eux. Le roi Benjamin a parlé de la valeur du service en disant que lorsque nous sommes au service de nos semblables, nous sommes simplement au service de notre Dieu. Tout le monde a des occasions de rendre service et de faire preuve d'amour. Le président Monson nous a demandé d'aller au secours des autres et de les servir. Il a déclaré, « Nous découvrirons que ceux que nous servons, qui, par nos efforts, ont senti le toucher du Maître, ne peuvent expliquer le changement qui s'est opéré dans leur vie. Ils ont le désir de servir fidèlement, de marcher humblement et de suivre davantage le modèle du Sauveur. Ayant reçu le don de vision spirituelle et entrevu les promesses de l'éternité, ils disent, comme l'aveugle à qui Jésus a rendu la vie, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Chaque jour, nous avons l'occasion d'aider et de servir, de faire ce qui est bien, au bon moment, sans tarder. Songez aux nombreuses personnes qui ont des difficultés à trouver un travail, ou qui sont malades, qui se sentent seuls, ou même qui pensent avoir tout perdu. Que pouvez-vous faire pour aider? Imaginez qu'un voisin, coincé sous la pluie avec sa voiture en panne, vous appelle et vous demande de l'aide. Quelle est la bonne chose à faire pour lui? Quel est le bon moment pour le faire? Je me souviens d'une fois où nous sommes allés en famille à Mexico pour acheter des vêtements pour nos deux enfants. Ils étaient très jeunes. Notre fils aîné venait d'avoir 2 ans et le plus jeune était âgé d'un an. La rue était bondée. Pendant que nous faisions nos achats, tenant nos enfants par la main, nous nous sommes arrêtés un moment pour regarder quelque chose. Et sans nous en rendre compte, nous avons perdu notre fils aîné. Nous ne savions pas comment, mais il n'était pas avec nous. Sans attendre, nous avons commencé à courir pour le trouver. Nous l'avons cherché et appelé avec une grande angoisse, pensant que nous l'avions peut-être perdu pour toujours. En pensée, nous supplions notre Père Céleste de nous aider à le trouver. Au bout d'un petit moment, nous l'avons trouvé. Il était là, regardant innocemment des jouets derrière une vitrine. Ma femme et moi l'avons pris dans nos bras et nous l'avons embrassé et nous nous sommes engagés à surveiller diligemment nos enfants pour ne plus jamais les perdre. Nous avons appris que pour aller au secours de notre fils, nous n'avons pas eu besoin de réunion de planification. Nous avons simplement agi. Nous sommes partis à la recherche de celui qui était perdu. Nous avons aussi appris que notre fils ne s'est même pas rendu compte qu'il était perdu. Frères et sœurs, il y a peut-être beaucoup de gens que nous avons perdus de vue pour une raison ou une autre et qui ne savent pas qu'ils sont perdus. Si nous tardons, il se peut que nous les perdions pour toujours. Pour beaucoup de personnes qui ont besoin de notre aide, il n'est pas nécessaire de créer de nouveaux programmes ou de prendre des mesures compliquées ou coûteuses. Elles ont simplement besoin de notre détermination à servir, à faire ce qu'il faut, au bon moment, sans tarder. Quand le Sauveur apparut au peuple du Livre de Mormon, il nous donna un grand exemple pour ce qui est de ne pas attendre pour soulager les personnes qui ont perdu le sens du bonheur et de la joie. Après avoir instruit le peuple, il vit que celui-ci n'arrivait pas à comprendre toutes ses paroles. Il a dit aux gens de rentrer chez eux et de méditer sur ce qu'il leur avait dit. Il leur dit de prier le Père et de se préparer à revenir le lendemain quand il viendrait de nouveau les instruire. Quand il cessa de parler, il regarda la multitude et la vit pleurer parce qu'elle souhaitait qu'il reste avec elle. Et il lui dit, « Voici, mes entrailles sont remplies de compassion envers vous. En avez-vous parmi vous qui sont malades? Amenez-les ici. En avez-vous qui sont estropiés ou aveugles ou boiteux ou mutilés ou lépreux ou qui sont desséchés, qui sont sourds ou qui sont affligés de toute autre manière? Amenez-les ici et je les guérirai, car j'ai compassion de vous. Mes entrailles sont remplies de miséricorde. » Et ils lui apportèrent leurs malades, et il les guérit. La multitude se prosterna à ses pieds, l'adora, et lui baisa les pieds, de telle sorte qu'elle lui baigna les pieds de ses larmes. Puis il lui commanda de lui amener ses petits-enfants, et il les bénit, un par un. C'est l'exemple que le Sauveur nous a donné. Son amour est pour tous, mais il ne perd jamais de vue la personne, l'individu. Je sais que notre Père Céleste est aimant, compréhensif et patient. Son Fils Jésus-Christ nous aime de la même façon. Il nous apporte de l'aide par l'intermédiaire de leurs prophètes. J'ai appris qu'il y a une grande sécurité à suivre les prophètes. Le sauvetage est toujours en cours. Le président Monson a dit, le Seigneur veut que nous pensions, que nous agissions, que nous fassions des efforts, que nous témoignions, que nous nous consacrions. Nous avons une responsabilité et une grande occasion nous est donnée. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de goûter de nouveau à la douce saveur de la joie et du bonheur que nous ressentons lorsque nous sommes pratiquants dans l'Église. C'est en recevant les ordonnances, en contractant des alliances sacrées et en les respectant que nous trouvons ce bonheur. Le Seigneur a besoin que nous aidions ces personnes. Faisons ce qui est bien, au bon moment, sans tarder. Je témoigne que Dieu vit et qu'il est notre Père. Jésus-Christ vit et il a donné sa vie pour que nous puissions retourner en présence de notre Père céleste. Je sais qu'il est notre Sauveur. Je sais que leur infinie bonté se manifeste continuellement. Je témoigne que Thomas S. Monson est leur prophète et que cette Église est la seule Église vraie sur la surface de la terre. Je sais que Joseph Smith est le prophète du rétablissement. Je témoigne que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Il nous donne une direction et des exemples à suivre pour que nous ressemblions davantage à Dieu et à son Fils bien-aimé. J'en témoigne. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Je vais parler aux jeunes plus personnellement que d'habitude, en comparant ma jeunesse à la leur. Votre valeur est inestimable. Je vous ai vu dans des dizaines de pays et sur chaque continent. Vous êtes bien meilleurs que nous à votre âge. Vous en savez plus sur l'Évangile, vous êtes plus mûr et plus fidèle. J'ai maintenant 87 ans. Vous vous demandez peut-être ce que je peux vous apporter à mon âge. J'ai été là où vous êtes et je sais où vous allez. Mais vous n'avez pas encore été là où je suis. Je cite quelques vers classiques. Le vieux corbeau commence à ralentir. Ce n'est pas le cas du jeune corbeau. Ce que le jeune corbeau ne sait pas, le vieux corbeau le connaît bien. Pour ce qui est des connaissances, le vieux corbeau dépasse toujours le jeune corbeau. Qu'est-ce que le vieux corbeau lent ne sait pas? Comment aller plus vite? Le jeune corbeau vole au-dessus, en dessous et autour du vieux corbeau lent. Qu'est-ce que le jeune corbeau rapide ne sait pas? Où aller? Ce n'est pas des Wordsworth, mais c'est de la poésie classique quand même. Avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la dégradation des valeurs morales, vous, mes jeunes amis, grandissez en territoire ennemi. Les Écritures nous apprennent qu'il y a une guerre dans les cieux, que Lucifer s'est rebellé et que ses partisans et lui ont été précipités sur la terre. Il est décidé à contrecarrer le plan de notre Père céleste et cherche à être maître de l'esprit et des actions de chacun. Son influence est spirituelle, et il est de tous côtés dans le pays. Mais malgré l'opposition, les épreuves et les tentations, nous n'avons pas à faiblir ni à craindre. À 17 ans, quand j'étais sur le point de terminer mes études, l'enseignement secondaire, et que je me considérais comme un élève moyen avec quelques handicaps, tout s'est écroulé autour de nous. Un dimanche matin. Le lendemain, on nous a demandé de nous réunir dans la grande salle de l'école. Sur l'estrade se trouvait une chaise sur laquelle était posée une petite radio. Le proviseur l'a allumée. Nous avons alors entendu la voix de Franklin Delano Roosevelt annoncer que Pearl Harbor avait été bombardé. Les États-Unis étaient en guerre contre le Japon. Plus tard, la scène s'est répétée. De nouveau, nous avons entendu la voix du président Roosevelt. Cette voix annonçait que notre pays était en guerre contre l'Allemagne. La Deuxième Guerre mondiale avait éclaté dans le monde entier. Tout à coup, notre avenir était incertain. Nous ne savions pas ce qui nous attendait. Vivrions-nous assez longtemps pour nous marier et fonder une famille? Aujourd'hui, il y a des guerres et des bruits de guerre sur et toute la terre est en tumulte. Vous, nos jeunes, vous ressentez peut-être de l'incertitude et de l'insécurité. J'aimerais vous conseiller et vous instruire, vous avertir sur des choses à faire et des choses à ne pas faire. Le plan de l'Évangile est le grand plan du bonheur. La famille est au cœur de ce plan. La famille dépend du bon usage du pouvoir de donner la vie qui se trouve dans votre corps. Dans la Déclaration au monde sur la famille, document inspiré, écrit par la première présidence et le Collège des 12 apôtres, nous apprenons les choses suivantes. Dans l'existence prémortelle, tous les êtres humains, hommes et femmes, ont été créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes. Et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle et a été établi dans l'existence prémortelle. Nous déclarons également que Dieu a ordonné que les pouvoirs sacrés de procréation ne doivent être employés qu'entre l'homme et la femme légitimement mariés. La grande punition que Lucifer et ses partisans se sont attirés a été celle d'être privés d'un corps mortel. De toutes les tentations que vous connaissez, les plus graves sont certainement celles qui ont trait à votre corps. Non seulement vous avez le pouvoir de créer des corps pour une nouvelle génération, mais vous avez aussi le libre arbitre. Joseph Smith, le prophète, a enseigné « Tous les êtres qui possèdent un corps ont un pouvoir supérieur à ceux qui n'en ont pas. » Donc chaque âme vivante qui a un corps physique a finalement pouvoir sur l'adversaire. Vous subissez des tentations du fait de votre nature physique, mais vous avez aussi pouvoir sur ses anges et sur lui. Le temps que nous finissions l'école, beaucoup de nos camarades étaient partis à la guerre, certains pour ne jamais revenir. Le reste d'entre nous allait bientôt entrer dans l'armée. Nous ne savions pas ce que l'avenir nous réservait. Survivrions-nous à la guerre? Resterait-il à notre retour quelque chose du monde que nous connaissions? Certain que j'allais être mobilisé, je me suis engagé dans l'armée de l'air. Rapidement, je me suis retrouvé à Santa Ana, en Californie, pour suivre une formation de pilotage. Je n'avais pas de témoignage ferme que l'Évangile était vrai, mais je savais que mes instructeurs du séminaire, Abel S. Rich et John P. Lillywhite, savaient qu'il était vrai. Je les avais entendus témoigner et je les croyais. Je me suis dit, je vais me reposer sur leur témoignage jusqu'à ce que j'en obtienne un moi-même. Il en a été ainsi. J'avais entendu parler de la bénédiction patriarcale, mais je n'avais pas reçu la mienne. Dans chaque pieu, il y a un patriarche ordonné qui a l'esprit de prophétie et de révélation. Il est autorisé à donner des bénédictions personnelles et privées aux personnes qui vont le voir avec une recommandation de leur évêque. J'ai écrit à mon évêque pour avoir une recommandation. Gerolande Sandstrom était un patriarche ordonné qui vivait dans le pieu de Santa Ana. Il ne connaissait rien de moi et ne m'avait jamais vu avant. Mais il m'a donné ma bénédiction. J'y ai trouvé des réponses et des enseignements. Les bénédictions patriarcales sont très personnelles, mais je vais vous citer un court passage de la mienne. Tu seras guidé par les murmures de l'Esprit Saint et tu seras averti des dangers. Si tu tiens compte de ces avertissements, notre Père Céleste te bénira pour que tu sois de nouveau uni à tes êtres chers. Ce mot « si », bien que petit à l'impression, se détachait au point de paraître aussi grand que la page. J'aurai la bénédiction de rentrer chez moi après la guerre si je respectais les commandements et si j'écoutais les murmures du Saint-Esprit. Ce don m'avait été conféré lors de mon baptême, mais je ne savais pas encore que c'était l'influence du Saint-Esprit ni comment fonctionnaient les murmures. Ce que j'avais besoin de savoir à propos de l'inspiration, je l'ai trouvé dans le livre de Mormon. J'ai lu « Les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit ». C'est pourquoi ils disent les paroles du Christ. Ainsi, faites-vous un festin des paroles du Christ, car voici, les paroles du Christ vous diront tout ce que vous devez faire. La chose la plus importante que j'ai apprise grâce à ma lecture du Livre de Mormon a peut-être été que la voix de l'Esprit nous parvient plus comme un sentiment que comme un son. Vous apprendrez comme moi à être à l'écoute de cette voix qu'on ressent plus qu'on l'entende. Néphi a réprimandé ses frères aînés en ces termes. « Vous avez vu un ange et il vous a parlé. Oui, vous avez entendu de temps en temps sa voix. Et il vous a parlé avec une petite voix douce. Mais vous aviez perdu toute sensibilité, de sorte que vous ne pouviez pas sentir ses paroles. Certaines critiques ont dit que ces versets sont dans l'erreur, car on entend des paroles, on ne les sent pas. Mais si vous y connaissez si peu que ce soit en matière de communication spirituelle, vous savez que le meilleur terme pour décrire ce qui se produit est le mot « sentir ». Si vous y consentez, le don du Saint-Esprit vous guidera et vous protégera et corrigera même vos actions. C'est une voix spirituelle qui vient à l'esprit comme une pensée ou un sentiment placé dans votre cœur. Le prophète Enos a dit « La voix du Seigneur parvient encore à mon esprit ». Et le Seigneur a dit à Oliver Cowdery « Voici, je te le dirai, dans ton esprit et dans ton cœur, par le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Il n'est pas attendu de vous que vous meniez votre vie sans commettre de fautes, mais vous ne commettrez pas de grandes fautes sans avoir d'abord été averti par les murmures du Saint-Esprit. Cette promesse s'applique à tous les membres de l'Église. Certains commettront de très graves fautes et transgressions et transgresseront les lois de l'Évangile. C'est le moment de vous rappeler l'expiation, le repentir et le pardon complet au point de redevenir pur. Le Seigneur a dit, « Celui qui s'est repenti de ses péchés est pardonné, et moi, le Seigneur, je ne m'en souviens plus. » Je vous rappelle que si l'adversaire parvenait à vous capturer à cause d'une mauvaise conduite, vous détiendriez la clé qui permet d'ouvrir la porte de la prison de l'intérieur. Vous pouvez être lavé par le sacrifice expiatoire du Sauveur Jésus-Christ. Il se peut que dans les ennuis, vous pensiez que vous ne valez pas la peine d'être sauvé parce que vous avez commis des fautes grandes ou petites et que vous êtes maintenant perdu. Ce n'est jamais vrai. Seul le repentir peut guérir les blessures, mais le repentir peut guérir les blessures, quelles qu'elles soient. Si vous êtes en train de glisser vers ce vers quoi vous ne devriez pas aller, ou si vous fréquentez des personnes qui vous attirent dans la mauvaise direction, il est temps d'affirmer votre indépendance, votre libre arbitre. Écoutez la voix de l'Esprit et vous ne vous égarerez pas. Je répète que les jeunes d'aujourd'hui sont élevés en territoire ennemi, dans une atmosphère de déclin des valeurs morales. Mais en ma qualité de serviteur du Seigneur, je vous promets que vous serez protégés des attaques de l'adversaire si vous êtes attentifs au chuchotement du Saint-Esprit. Habillez-vous avec pudeur, parlez avec révérence. Écoutez de la musique édifiante. Évitez toute immoralité et toute pratique dégradante personnellement. Prenez le contrôle de votre vie et enjoignez-vous d'être vaillant. Parce que nous comptons tant sur vous, vous serez remarquablement bénis. Vous n'êtes jamais loin des yeux de votre Père Céleste aimant. La force de mon témoignage a changé depuis le temps où je ressentais le besoin de m'appuyer sur le témoignage de mes instructeurs du séminaire. Aujourd'hui, je m'appuie sur les autres quand je marche, à cause de mon âge et de la polio, mais pas à cause des doutes concernant les choses spirituelles. J'ai appris à croire, comprendre et connaître les vérités précieuses de l'Évangile et du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ. Moi qui suis l'un de ces témoins spéciaux, je témoigne que l'issue de cette bataille qui a commencé dans la vie prémortelle ne fait pas de doute. Lucifer va perdre. Tout à l'heure, nous avons parlé de corbeaux. Vous, les jeunes corbeaux, vous n'avez pas besoin de voler ça et là sans but, ne sachant pas vraiment quelle direction prendre. Il y en a qui connaissent le chemin, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur a organisé son Église sur le principe des clés et des conseils. À la tête de l'Église siègent 15 hommes soutenus comme prophètes voyants et révélateurs. Chaque membre de la première présidence et du Collège des 12 apôtres détient toutes les clés de la prêtrise nécessaires à la direction de l'Église. Le doyen des apôtres est prophète. Thomas S. Monson est le seul autorisé à exercer toutes ces clés. Les Écritures prévoient que la première présidence et le Collège des 12 œuvrent en conseil et que les décisions de ces conseils soient unanimes. Et il en est ainsi. Nous avons confiance que le Seigneur tracera le chemin et nous cherchons seulement à faire sa volonté. Nous savons qu'il a placé une grande confiance en nous, individuellement et collectivement. Vous devez apprendre à vous confier en l'Éternel de tout votre cœur et à ne pas vous appuyer sur votre sagesse. Vous devez être digne de confiance et vous entourer d'amis qui désirent l'être également. Vous êtes peut-être parfois tenté d'avoir le raisonnement qu'il m'est arrivé d'avoir dans ma jeunesse. À l'allure où vont les choses, le monde va bientôt cesser. La fin du monde va arriver avant que j'arrive là où je dois être. Pas du tout. Vous pouvez vous attendre à faire des choses comme il faut. Vous marier, fonder une famille, voir vos enfants et vos petits-enfants et peut-être même vos arrière-petits-enfants. Si vous suivez ces principes, vous serez protégé. Et grâce au murmure du Saint-Esprit, vous saurez vous-même où aller. Car par le pouvoir du Saint-Esprit, vous pouvez connaître la vérité de toutes choses. Je vous promets qu'il en sera ainsi. Vous, notre précieuse jeunesse, au nom de Jésus-Christ, amen.
We are grateful to
the remercions le chœur du tabernacle, ceux qui l'ont dirigé et les organistes de la belle musique qui a été interprétée ce matin. Dieter Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, sera le dernier orateur de cette session. Après le discours du président Uhrdorf, le chœur chantera « Saint en avant ». Ensuite, Lowell Snow, des 70, fera la prière de clôture. Et la conférence sera suspendue jusqu'à 14 heures cet après-midi. Président Uhrdorf.
Puis-je
encourager les jeunes de l'Église de suivre les conseils sages qui nous ont été donnés aujourd'hui par notre prophète, président Monson? C'est une véritable bénédiction de vivre une époque où nous sommes dirigés par des prophètes sur la terre. Et nous sommes si bénis d'avoir président Monson comme le prophète vivant et vrai sur la terre aujourd'hui. En annonçant beaucoup de nouveaux temples à travers le monde, président Monson nous a montré à nouveau comment l'Église progresse et va de l'avant. Laissez-moi vous parler d'un autre grand prophète de notre temps, Moïse, l'un des plus grands prophètes que le monde ait jamais connu. Il fut élevé par la fille de Pharaon et passa les 40 premières années de sa vie dans les palais royaux d'Égypte. Il connaissait par expérience personnelle la gloire et la splendeur de ce royaume antique. Des années plus tard, au sommet d'une montagne, loin de la splendeur et de la magnificence de la puissance Égypte, Moïse se tint en présence de Dieu et lui parla face à face, comme un homme parle à son ami. À la fin de la vision, Moïse tomba sur le sol et y resta pendant de nombreuses heures. Quand il retrouva sa force, il comprit une chose. Quand il retrouva sa force, il comprit une chose qui, durant toutes les années passées à la cour de Pharaon, ne lui était jamais venue à l'esprit. « Je sais, dit-il, que l'homme n'est rien. » Plus nous en apprenons sur l'univers, plus nous découvrons, du moins dans une faible mesure, ce que Moïse savait. L'univers est si vaste, si mystérieux et si magnifique qu'il dépasse l'entendement de l'esprit humain. Dieu a dit à Moïse, « J'ai créé des mondes sans nombre. Les merveilles du ciel nocturnes sont un magnifique témoignage de cette vérité. Peu de choses ont autant suscité chez moi une admiration à couper ainsi le souffle que le fait de voler dans la nuit noire au-dessus des océans et des continents et de contempler à travers le carreau de mon cockpit la gloire infinie de millions d'étoiles. Les astronomes ont tenté de dénombrer les étoiles de l'univers. Un groupe de scientifiques estime que le nombre de celles qui sont à portée de notre télescope est 10 fois supérieur à la somme de tous les grains de sable de toutes les plages et de tous les déserts de la Terre. Cette conclusion ressemble étonnamment à la déclaration d'Enoch, le prophète d'autrefois. Et s'il était possible à l'homme de compter les particules de la Terre, oui, des millions de terres comme celle-ci, ce ne serait même pas le commencement du nombre de tes créations. Étant donné l'étendue des créations de Dieu, il n'est pas étonnant que le grand roi Benjamin ait exhorté son peuple à toujours se souvenir de la grandeur de Dieu et par comparaison de son propre néant. Bien que l'homme ne soit rien, je suis rempli néanmoins d'admiration et d'émerveillement à l'idée que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Alors que nous pourrions contempler l'immensité de l'univers et dire « Qu'est-ce que l'homme à côté de la gloire de la création ?» Dieu a dit lui-même que nous sommes la raison même pour laquelle il a créé l'univers. son œuvre et sa gloire, la raison de l'existence de ce magnifique univers, sont le salut et l'exaltation de l'humanité. En d'autres termes, l'étendue infinie de l'éternité, les gloires et les mystères de l'espace et du temps, sans fin, ont tous été créés pour le profit de simples mortels comme vous et moi. Notre Père Céleste a créé l'univers pour que nous puissions atteindre le potentiel de fils et fille de Dieu qui est le nôtre. Tel est le paradoxe de l'homme. Comparé à Dieu, l'homme n'est rien. Cependant, nous sommes tout pour Dieu. Bien qu'en comparaison de la création infinie, nous ne soyons rien, une étincelle de feu éternel brûle en notre sein. La promesse incompréhensible de l'exaltation, de monde sans fin, est mise à notre portée. Le plus grand désir de Dieu est de nous aider à l'atteindre. Le maître du mensonge sait qu'un de ses outils les plus efficaces pour égarer les enfants de Dieu est de recourir aux extrêmes du paradoxe de l'homme. Chez certains, il fait appel à la tendance à l'orgueil, les faisant se gonfler et les poussant à croire à l'illusion de leur suffisance et de leur invincibilité. Il leur dit qu'ils échappent à l'ordinaire et qu'à cause de leur capacité, d'un droit héréditaire ou de leur statut social, ils se distinguent du lot commun de tout ce qui les entoure. Il les amène à la conclusion qu'ils ne sont donc pas assujettis aux règles de quiconque et que les problèmes des autres ne sont pas leur affaire. On dit qu'Abraham Lincoln aimait le poème suivant. « Oh, pourquoi l'esprit des mortels est-il arrogant, comme une étoile filante, un nuage poussé par le vent, comme un éclair, comme une vague qui déferle. L'homme passe de la vie au repos de la tombe. » Les disciples de Jésus-Christ comprennent qu'au regard de l'éternité, notre existence dans la sphère de la condition mortelle n'est qu'un court moment dans l'espace et dans le temps. Ils savent que la véritable valeur d'un homme n'a pas grand-chose à voir avec les choses que le monde tient en haute estime. Ils savent que tout l'or du monde ne pourrait suffire à acheter un morceau de pain dans l'économie des cieux. Les personnes qui hériteront du royaume de Dieu sont celles qui deviendront semblables à un enfant, soumis, doux, humble, patient, plein d'amour. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Ces disciples comprennent aussi que lorsqu'ils sont au service de leurs semblables, ils sont simplement au service de leur Dieu. Une autre manière dont Satan nous trompe, c'est le découragement. Il s'efforce de faire porter notre regard sur notre propre insignifiance, jusqu'à ce que nous commencions à douter que nous ayons une quelconque valeur. Il nous dit que nous sommes trop petits pour que quiconque nous remarque, que nous sommes oubliés, en particulier de Dieu. Je vais vous raconter une expérience personnelle qui, j'espère, aidera ceux qui se sentent insignifiants, oubliés ou seuls. Il y a longtemps, j'ai suivi une formation de pilote au sein de l'armée de l'air des États-Unis. J'étais loin de chez moi et j'étais un jeune soldat ouest-allemand, né en Tchécoslovaquie, ayant grandi en Allemagne de l'Est et ne parlant anglais qu'avec de grandes difficultés. Je me souviens clairement du voyage pour rejoindre notre base de formation au Texas. J'étais en avion, assis à côté d'un passager qui parlait avec un très fort accent du Sud. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il disait. En fait, J'en étais à me demander si je n'avais pas appris la mauvaise langue depuis le début. J'étais terrifié à l'idée de devoir disputer les meilleures places de la formation des pilotes à des élèves dont la langue maternelle était l'anglais. Quand je suis arrivé à la base aérienne de la petite ville de Big Spring au Texas, je me suis mis à la recherche de la branche de l'Église. Elle était composée d'une poignée de membres merveilleux qui se réunissaient dans des salles louées de la base même. Ils étaient en train de construire une petite chapelle qui devait servir de lieu de culte permanent pour l'Église. À cette époque, les membres devraient fournir la plupart de la main-d'œuvre pour les nouveaux bâtiments. Jour après jour, j'allais à ma formation de pilote et j'étudiais aussi dur que possible. Puis, je passais la plupart de mon temps libre à travailler sur la nouvelle chapelle. C'est là que j'ai appris qu'un 2x4 n'est pas un pas de danse, mais plutôt une planche de bois. J'ai aussi appris une technique de survie vitale, consistant à ne pas frapper sur mon pouce en martelant un clou. J'ai passé tellement de temps à travailler sur la chapelle que le président de branche, qui n'était autre qu'un de nos instructeurs de vol, m'a dit qu'il pensait que je devrais passer peut-être plus de temps à étudier. Mes amis et camarades de la formation de pilotes étaient eux-mêmes engagés dans des activités extrascolaires, dont je peux dire sans risque que certaines n'auraient pas été en accord avec la brochure actuelle « Jeunes, soyez forts ». Pour ma part, j'aimais avoir une participation active dans cette petite branche de l'ouest du Texas, exercer mes nouveaux talents de menuisier et améliorer mon anglais en remplissant mes appels d'instructeur au Collège des Anciens et à l'école du dimanche. À cette époque, Big Spring, comme son nom ne l'indique pas, était un endroit petit, insignifiant et inconnu. Et je pensais souvent la même chose de moi-même. Insignifiant, inconnu et fort seul. Malgré cela, pas une seule fois, je ne me suis demandé si le Seigneur ne m'avait pas oublié ou s'il saurait jamais me trouver là-bas. Je savais que pour mon Père Céleste, peu importait l'endroit où j'étais, le rang que j'occupais parmi mes collègues de la formation des pilotes ou l'appel que j'avais dans l'Église. Ce qui comptait pour lui, c'était que je fasse de mon mieux, que mon cœur soit tourné vers lui et que je sois disposé à aider des personnes autour de moi. Je savais que si je faisais de mon mieux, tout se passerait bien et tout s'est bien passé. Le Seigneur ne se préoccupe pas de savoir si nous passons nos journées à travailler dans des palais de marbre ou des étables. Il sait où nous sommes, aussi modeste que soit notre situation. Il se sert à sa manière et pour ses fins sacrées des gens qui tournent leur cœur vers lui. Dieu sait que certaines des plus grandes âmes qui aient jamais vécu sont celles qui ne figureront jamais dans les chroniques de l'histoire. Ce sont les âmes bénies et humbles qui suivent l'exemple du Sauveur et passent leur vie à faire le bien. Selon moi, un couple, les parents d'un ami, illustrent ce principe. Le mari travaillait dans une aciérie d'Utah. Au déjeuner, il sortait ses écritures ou un magazine de l'Église et lisait. Quand les autres ouvriers voyaient ce qu'il faisait, ils se moquaient de lui et attaquaient ses croyances. Chaque fois, il leur répondait avec gentillesse et assurance. Il ne se laissait pas aller à la colère ou la frustration à cause de leur manque de respect. Des années plus tard, un des ouvriers les plus moqueurs est tombé gravement malade. Avant de mourir, il a demandé que cet homme humble fasse un discours à ses obsèques, ce qu'il a fait. Ce fidèle membre de l'Église n'a jamais vraiment eu ni statut social, ni fortune, mais son influence touchait profondément tous ceux qui le connaissaient. Il est mort dans un accident industriel alors qu'il s'était arrêté pour aider un autre ouvrier qui était coincé dans la neige. Moins d'un an après, sa veuve a dû subir une opération au cerveau qui l'a privée de la faculté de marcher. Pourtant, les gens aiment passer du temps avec elle parce qu'elle écoute, elle se souvient, elle est pleine de sollicitude. Incapable d'écrire, elle a mémorisé les numéros de téléphone de ses enfants et petits-enfants. Elle se souvient avec amour des anniversaires de naissance et de mariage. Les gens qui lui rendent visite en ressortent toujours avec de meilleurs sentiments sur la vie et sur eux-mêmes. Ils ressentent son amour. Ils savent qu'elle se soucie d'eux. Elle ne se plaint jamais, mais elle passe son temps à être une bénédiction pour les autres. Une de ses amies a dit que cette femme était l'une des rares personnes qu'elle ait jamais connues qui donnait vraiment l'exemple de l'amour et de la vie de Jésus-Christ. Ce couple aurait été le premier à dire qu'il n'avait pas beaucoup d'importance dans ce monde, mais le Seigneur utilise une balance très différente de celle du monde pour mesurer la valeur d'une âme. Il connaît ses conjoints fidèles, il les aime. Leurs actions sont un témoignage vivant de leur foi inébranlable en lui. Frères et sœurs, il est vrai que l'homme n'est rien en comparaison de la grandeur de l'univers. Parfois, nous pouvons même nous sentir insignifiants, invisibles, seuls ou oubliés. Mais souvenez-vous toujours que vous comptez pour lui. Si jamais vous deviez en douter, réfléchissez à ces quatre principes divins. Premièrement, Dieu aime les humbles et les doux, car ils sont les plus grands dans le royaume des cieux. Deuxièmement, le Seigneur fait en sorte que la plénitude de son évangile soit proclamée par les faibles et les plus simples jusqu'aux extrémités du monde. Il a décrété que ce sont les choses faibles du monde qui s'avanceront pour abattre et confondre les puissantes et les fortes. Troisièmement, où que vous viviez, aussi modeste que soit votre situation, aussi maigre que soit votre emploi, aussi limité que soient vos capacités, aussi quelconque que vous paraissiez, aussi petit que vous paraisse votre appel dans l'Église, vous n'êtes pas invisible pour votre Père Céleste. Il vous aime. Il connaît votre cœur humble et vos gestes inspirés par l'amour et la gentillesse. Ensemble, ils forment un témoignage durable de votre fidélité et de votre foi. Quatrièmement, et pour finir, comprenez bien que ce que vous voyez et vivez maintenant n'est pas ce qui sera éternellement. Vous n'éprouverez pas éternellement de la solitude, de la tristesse, de la douleur et du découragement. Nous avons la promesse certaine de Dieu qu'il n'oubliera ni n'abandonnera ceux qui tournent leur cœur vers lui. Ayez foi et espoir en cette promesse. Apprenez à aimer votre Père Céleste et devenez son disciple en parole et en action. Soyez assurés que si vous restez ferme, croyez en lui et demeurez fidèle dans l'obéissance au commandement, vous ferez un jour, par vous-même, l'expérience des promesses révélées à l'apôtre Paul. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Frères et sœurs, l'être le plus puissant de l'univers est le Père de votre esprit. Il vous connaît, il vous aime d'un amour parfait. Dieu ne vous considère pas seulement comme des êtres mortels vivant sur une petite planète, le temps d'une brève saison. Il vous considère aussi comme son enfant. Il voit en vous l'être que vous êtes capable de devenir et que vous êtes destiné à devenir. Il veut que vous sachiez que vous comptez pour lui. Puissions-nous toujours croire, avoir confiance et conformer notre vie de manière à comprendre notre valeur et notre potentiel éternel véritable. Puissions-nous être dignes des précieuses bénédictions que notre Père Céleste a en réserve pour nous. C'est là ma prière, au nom de son Fils, Jésus-Christ. Amen.
Our dearest,
notre cher Père éternel, nous t'aimons tant. Et de tout autour du monde, tes enfants se sont réunis ce matin pour écouter ta parole, celle que tu mets dans le cœur et l'esprit de ceux qui se sont adressés à nous. Nous sommes reconnaissants, Père, pour ce privilège de la part de tous ceux qui ont entendu ta parole ou ceux qui la liront, ceux qui suivront ces préceptes. Nous te prions pour que tu les bénisses individuellement, collectivement, en tant que famille. Bénis-les avec le pouvoir de pouvoir entendre cette parole et de pouvoir entendre ta parole, ta voix. Donne, fortifie-les, donne-leur ton inspiration, ta direction. Nous prions que tous tes enfants à travers le monde puissent avoir le désir fort de se préparer, de rentrer dans tes saints temples et d'y recevoir les grandes bénédictions que tu as préparées pour eux. Et de pouvoir aider dans l'œuvre de rédemption de tous tes enfants, de chaque âme. Aide-les à devenir, aide chaque personne à devenir un homme et une femme du Christ. Et nous prions en son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à la première session de la 181e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était apprêtée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.